Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour ce premier numéro de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. La pandémie de Covid-19 n'a pas que des répercussions sur la santé ou l'économie. Depuis l'apparition du virus, les droits de l'homme sont soumis à rude épreuve un peu partout dans le monde. Restrictions des libertés fondamentales, notamment la liberté de se rassembler ou des problèmes d'accès aux soins. La pandémie a aussi montré que si le monde entier est touché par la Covid-19, les conséquences sont loin d'être les mêmes pour tous. Les violences faites aux femmes ont augmenté en raison du confinement et les personnes âgées se sont retrouvées isolées plus que jamais. Les enfants non plus n'ont pas été épargnés par le virus. Durant plusieurs mois, la plupart des élèves de la planète se sont retrouvés sans la possibilité de se rendre à l'école, avec des conséquences catastrophiques pour les plus vulnérables. Certains ont même été forcés de travailler pour pallier au manque de ressources des parents. Ce sujet sera sans nul doute au cœur des travaux du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Il a entamé une nouvelle session de travail cette semaine. Elle se déroulera en ligne, pandémie oblige. En temps normal, elle aurait dû se tenir au Palais Wilson à Genève, au Haut Commissariat aux droits de l'homme. Pour discuter de cette session et des conséquences de la Covid-19 sur les droits de l'enfant, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Philippe Jaffé, expert du comité depuis mars 2019 et professeur au Centre interfacultaire en droits de l'enfant de l'Université de Genève. Philippe Jaffé, bonjour.
Bonjour à vous.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la Covid-19 a touché tous les enfants de la planète, mais comme je l'ai dit dans l'introduction, pas tous avec les mêmes conséquences. Est-ce qu'on peut dire que les inégalités ont été exacerbées durant cette période ?
Absolument. Il est absolument clair que les enfants, d'abord, en général, ont beaucoup souffert de cette pandémie, mais la vaste majorité des enfants qui ont souffert sont des enfants qui survivent dans des contextes pauvres, dans des pays qui ont des difficultés sur le plan de leur fonctionnement administratif et dans lesquels les structures étatiques sont faibles. Et dans ces pays, les conditions sont extrêmes et les enfants souffrent vraiment de manière dramatique. On peut même dire que leur survie est engagée pour un grand nombre. Et puis ensuite, même dans les pays plus aisés du nord de la planète, on constate que il y a des inégalités vraiment très importantes. Un certain nombre d'enfants, je dirais une minorité, bénéficient d'un soutien adéquat durant ces temps qui sont difficiles pour tous. On n'en mesure pas encore toutes les conséquences par ailleurs. Et puis, un grand nombre d'enfants qui n'ont peut-être pas les moyens financiers qui sont suffisants pour adapter leur style d'apprentissage avec les moyens digitaux qui sont nécessaires à distance, ou des parents qui ne sont pas à même de s'improviser enseignant, parce que c'est un métier, hein, être enseignant. Moi-même, je l'ai remarqué avec mes enfants, on ne peut pas du jour au lendemain s'improviser enseignant. Eh bien, ces parents qui ont plus de difficultés, finalement, ne peuvent pas soutenir adéquatement leurs enfants et les enfants prennent beaucoup de retard dans leurs apprentissages.
Et est-ce que le Comité des droits de l'enfant va travailler durant cette session sur les conséquences de la pandémie sur les droits de l'enfant ?
Alors, bien entendu, on a beaucoup de discussions autour des conséquences. On les a directement avec les États parties qu'on rencontre en ce moment, notamment des délégations d'ONG. C'est effectivement au premier plan de beaucoup de préoccupations et de discussions. Mais ce n'est pas la seule matière qu'on aborde. On a tout le reste usuel. Mais c'est évident que cette urgence teinte l'ensemble des discussions. Et pour certains États parties, c'est vraiment l'élément au cœur des difficultés actuelles, tant au niveau de la santé, par exemple, que l'éducation, évidemment, mais aussi au niveau de l'administration de la justice juvénile. Quelles sont les situations des enfants qui sont en détention ou en privé de liberté ? Il y a des grandes inquiétudes, par exemple, sur ces questions-là.
Et les États vous posent des questions directement, vous demandent des conseils ?
Alors, en ce moment, non, pas du tout. Les États sont, et c'est un des drames de cette pandémie, les dialogues avec les États sont reportés à plus tard. Or, une manière importante pour que les États puissent s'organiser pour mieux prendre en compte les droits des enfants, c'est qu'on puisse avoir ces dialogues avec eux, leur rappeler un peu les paramètres centraux de ce que représentent les droits de l'enfant, écouter également leurs difficultés et au fond, par le dialogue, suggérer quelles sont les meilleures voies, en tout cas leurs priorités, ou devraient être leurs priorités.
Oui, parce que pour rappeler votre rôle de base en tant que comité des droits de l'enfant, c'est de permettre d'examiner en fait la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant par rapport aux États qui l'ont adoptée. Donc c'est vraiment de vérifier cette mise en œuvre.
Oui, c'est presque plus un processus rétroactif qu'un processus progressif, dans le sens où on examine ce que l'État a fait durant une période antérieure et on essaye de les orienter avec eux, parce que tous les États sont plutôt favorables à cette orientation. Il n'y a aucun État parti qui ne veut pas l'amélioration de la situation de ses enfants. Puis on travaille avec eux sur ce qui pourrait être fait de mieux pour une période à venir. Mais ceci étant, on prend position également, et des membres individuels ou en groupe, sur des conditions qui sont extrêmes, soit à travers des communiqués de presse, soit par des voies moins officielles, si j'ose dire, avec des États parties qui suscitent le dialogue direct.
Vous me disiez, vous avez fait votre dernière session en présentiel, c'était finalement un peu exceptionnel, c'était à Samoa, vous pouvez un peu expliquer pourquoi ?
Oui, c'est tout à fait exceptionnel. Donc, nous avons tenu la 84e session du comité à Apia, la capitale de l'État parti de Samoa, une île dans le Pacifique Sud. Et avant que vos auditeurs et auditrices imaginent qu'on a pris des vacances, nous avions un planning extrêmement chargé. Pendant une semaine, nous avons examiné plusieurs pays de la région, et c'était toute l'importance, c'est d'aller se rendre au contact, à proximité des États parties dans leur réalité géographique et aussi au contact des enfants. Donc c'était une session tout à fait exceptionnelle.
Alors un des droits de l'enfant, c'est, vous l'avez déjà dit auparavant, c'est que les enfants puissent aussi s'exprimer sur les sujets qui les concernent. Comment se passe le dialogue que vous avez avec les enfants au sein de votre comité, justement ? Est-ce qu'ils interviennent ?
Oui, ils interviennent, et dans toutes les situations, dans toutes les sessions, nous avons des périodes qui sont dédiées à des dialogues avec les enfants, la plupart du temps à distance. Et ça se passe de manière très intéressante et très variable selon les pays. Et c'est extrêmement intéressant. Et comment est-ce que je peux dire ? On est souvent étonné, on est même abasourdi par les connaissances que ces enfants-là, alors il faut imaginer qu'ils sont quand même sélectionnés de différentes manières, mais des connaissances qu'ils ont de leur situation dans leur pays, et puis de leur capacité à synthétiser finalement les endroits, les éléments névralgiques de ce à quoi la communauté internationale peut répondre.
Alors, en dehors de la pandémie, votre comité, comme beaucoup d'organes des droits de l'homme des Nations Unies, se plaint de devoir faire face à des restrictions budgétaires, notamment dues au fait que certains États ne payent pas leurs contributions. Alors, quelles sont les conséquences pour vous, pour votre comité ?
Eh bien, la réalité, c'est qu'on ne peut plus remplir notre mandat de manière totale, complète, et on prend du retard sur un certain nombre de tâches qui sont très importantes, notamment les dialogues avec les États, mais également sur des questions qui sont beaucoup plus lancinantes. Vous savez que tous les organes de traité autorisent ce qu'on appelle des communications personnelles, c'est-à-dire des plaintes, dans l'occurrence chez nous, des enfants qui peuvent se plaindre auprès du comité, porter plainte contre leur État pour des violations de leurs droits. Et là, la liste commence à s'empiler sur un coin de bureau, et on n'a pas le temps de les traiter. Et puis, je dirais que c'est aussi une question, étant psychologue, c'est une question de sentiment. Lorsque vous avez l'impression que votre travail n'est pas soutenu adéquatement, ce n'est pas une question de richesse ou d'opulence, mais simplement de pouvoir fonctionner avec une certaine aisance pour pouvoir se concentrer sur des tâches, ben, ça mine un petit peu l'ambiance pour tous. On n'est plus au taquet comme on l'était auparavant. On l'est d'une certaine manière, mais pas avec le même esprit, la même motivation. Et je crois que c'est général à travers tout le système onusien.
Philippe Jaffé, pour terminer, si vous aviez un message à faire passer pour les enfants cette période compliquée de pandémie, ce serait lequel ?
Vous savez, je place beaucoup d'espoir dans la participation des enfants. C'est vraiment une des grandes avancées dans le domaine des droits de l'enfant. Et de plus en plus d'États parties aménagent des espaces pour que les enfants puissent s'exprimer et puissent être entendus de manière authentique. Et en plus de ça, je pense qu'en matière des droits de l'homme, il ne faut jamais réduire ou oublier qu'il y a des personnes, des individualités qui sont des défenseurs des droits de l'homme. Et on a aussi des enfants qui sont défenseurs des droits humains. Et puis ceux-là, lorsqu'il y a une crise, ben, ils sont plus visibles encore, ils sont plus à risque. Donc continuez votre travail, mais protégez-vous au même temps.
Docteur Philippe Jaffé, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert au Comité des droits de l'enfant et directeur du Centre interfacultaire en droit de l'enfant de l'Université de Genève. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine d'ONU Info Genève. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur le site web ungeneva.org et sur ONU Info Genève, le compte Twitter en français des Nations Unies. À très bientôt.